assurer la mise en onde. Au revoir et à la prochaine.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro pour le monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du mercredi 7 juin 2023. Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken à Riyad, au deuxième jour de sa visite en Arabie Saoudite. Ici aux États-Unis, Donald Trump, Chris Christie, Ron DeSantis et aujourd'hui Mike Pence, la liste des prétendants à la Maison-Blanche ne cesse de s'allonger dans le camp républicain.
Je pense que l'idée, c'est de détruire Trump un petit peu.
Jean-François Seznec, politologue, nous situera sur les enjeux chez les Républicains dans la partie magazine. Au Burkina Faso, deux attaques de djihadistes présumés ont fait 21 morts. Au Tchad, combat entre armées rebelles dans le nord du pays. Vaste remaniement dans les forces armées rwandaises. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. On commence par les États-Unis. Mike Pence a officiellement lancé aujourd'hui sa candidature à la primaire républicaine de 2024, une élection lors de laquelle il retrouvera sur sa route l'ancien président américain Donald Trump, dont il fut le vice-président. Monsieur Pence, qui fête aujourd'hui ses 64 ans, a acté sa rupture avec Donald Trump après l'assaut du Capitole en 2021, alors qu'il se trouvait à l'intérieur du bâtiment. Outre Donald Trump, Mike Pence affrontera une longue liste de prétendants dans le camp républicain, parmi lesquels le gouverneur de Floride, Ron DeSantis. Le premier ministre britannique Rishi Sunak est ici à Washington pour une visite de deux jours destinée à réchauffer encore davantage la relation avec le président Joe Biden. Son programme aujourd'hui prévoit une rencontre avec de grands patrons américains et des entretiens avec des élus du Congrès. C'est demain jeudi qu'il se rendra à la Maison-Blanche pour rencontrer Joe Biden, l'Ukraine, le commerce et les ambitions du Royaume-Uni dans l'intelligence artificielle seront au menu de son entretien avec le locataire de la Maison-Blanche. Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken est arrivé ce mercredi à Riyad, au deuxième jour de sa visite en Arabie Saoudite, après avoir personnellement abordé avec le prince héritier le délicat sujet des droits humains sur fond d'alliance changeante dans la région. John Lindon.
La rencontre avec Mohamed Ben Salman, le dirigeant de facto de l'Arabie Saoudite, s'est déroulée en pleine nuit au Palais Royal à Jeddah, sur la mer Rouge. Très attendue, elle a permis d'avoir ce qui a été qualifié par un responsable américain de conversation ouverte et sincère sur des questions bilatérales et régionales. M. Blinken a pu notamment aborder la question des droits de l'homme d'une manière générale et concernant des problèmes spécifiques, a-t-il ajouté, sous le couvert de l'anonymat, sans donner plus de détails. Les droits humains sont l'un des points de contentieux majeurs entre Washington et le Royaume saoudien, mais pragmatique, les responsables américains considèrent qu'ils doivent continuer à nouer des liens forts avec leurs alliés, dont le rôle sur la scène internationale se fait de plus en plus marquant. La visite d'Anthony Blinken intervient à l'heure des changements dans la région, notamment le rapprochement historique entre l'Arabie saoudite et deux ennemis des États-Unis, la Syrie et l'Iran. Hasard du calendrier, la République islamique a rouvert mardi son ambassade en Arabie Saoudite.
En Ukraine, les habitants de Kherson fuient leurs habitations après la montée des eaux, après la destruction du barrage de Novakakovka qui a provoqué l'inondation des rives de Dnipr. D'après Kiev, 42 000 personnes sont directement menacées par des inondations et des centaines de milliers d'habitants n'auront plus accès à l'eau potable. La Russie a imposé l'état d'urgence dans les parties de la province de Kherson sous son contrôle. Les conséquences de cette catastrophe pourraient se fait sentir sur des dizaines d'années dans le sud de l'Ukraine. Le pape François, âgé de 86 ans, a été hospitalisé à Rome pour être opéré aujourd'hui d'une hernie abdominale sous anesthésie générale sur fond de préoccupations régulières autour de la santé du pontife. Le secrétaire d'État et numéro 2 du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin, a précisé que cette opération n'impliquait aucune vacance ni un remplacement temporaire du pape dans l'exercice de ses fonctions. Après l'opération, l'exercice de son ministère reprendra, même si c'est depuis un lit d'hôpital, a-t-il expliqué aux journalistes. En cas de dossiers urgents, ils lui seront portés à l'hôpital Gemelli. On continue ce journal avec le continent, l'actualité sur le continent. L'armée éthiopienne a déjoué aujourd'hui une attaque de combattants islamistes somaliens, Shebab, contre une localité frontalière entre les deux pays, a affirmé le ministère éthiopien des Affaires étrangères. L'armée fédérale éthiopienne indique que l'attaque a visé la localité de Dolo à la frontière Éthiopie-Somalie sans donner de bilan, assurant toutefois que les assaillants ont été stoppés net avant de pouvoir faire de gros dégâts. Au Burkina Faso, 21 personnes, majoritairement des supplétifs civils de l'armée et des soldats, ont été tuées hier lundi lors de deux attaques de djihadistes présumés. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Lundi, un violent accrochage a eu lieu à Sawenga, dans la commune de Bitou, dans la région du centre-est, entre une unité mixte de soldats et de volontaires pour la défense de la patrie et des groupes armés terroristes. C'est ce qu'indique une source sécuritaire qui soutient que 14 supplétifs civils et 4 militaires ont été tués. Une autre ajoute que l'unité mixte participait à une opération de sécurisation dans la zone, précisant que les vecteurs aériens déployés en riposte ont permis de neutraliser plus d'une cinquantaine de terroristes. Selon une source policière, la nuit dernière, une autre attaque a visé le poste de police frontalier de Yendéré, dans le sud-ouest, près de la Côte d'Ivoire, tuant un policier et deux civils. La Côte d'Ivoire accueille 18 000 réfugiés ayant fui le Burkina Faso, soit plus de deux fois plus qu'en 2022, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Les violences ont fait depuis 7 ans plus de 10 000 morts civils et militaires, selon des ONG, et plus de 2 millions de déplacés internes. D'après le gouvernement burkinabé, l'armée contrôle 65% du territoire.
Au Tchad, des combats ont opposé l'armée à la rébellion pendant une semaine. Dans le nord du pays, les bilans sont contradictoires. Les détails avec Claire Morejibou.
L'armée affirme avoir tué 23 rebelles et que 8 soldats ont été blessés. La rébellion assure avoir éliminé 15 militaires, dont 2 officiers supérieurs, dans le massif du Tibesti, où les deux camps s'affrontent régulièrement. Le 31 mai dernier, l'armée avait assuré avoir attaqué une colonne de rebelles du Front de la Nation pour la démocratie et la justice au Tchad et du Conseil de commandement militaire pour le salut de la République dans la région de Kouri-Bougoudi. Le FNDJT et le CCMSR sont parmi les plus importants et actifs des mouvements rebelles tchadiens. Les bilans avancés par les deux camps lors de leurs affrontements sont impossibles à vérifier de sources indépendantes dans cette région orifère à plus de 600 km de N'Djamena et où bandits, rebelles, orpailleurs illégaux et militaires se disputent des aires d'influence.
Le gouvernement rwandais a annoncé aujourd'hui le limogeage de plusieurs officiers de haut rang. La décision est intervenue après le remplacement la veille du ministre de la Défense, son numéro 2, et le chef d'état-major des armées pour indiscipline, Eric Manirakiza.
De premiers changements à des postes clés des forces armées ont été annoncés mardi dans un communiqué de la présidence. Le ministre de la Défense Alfred Morassira, en poste depuis 2018, est remplacé par Juvenal de Marizamunda, un nouveau chef d'état-major de la Défense, le général Moubarak Muganga, et celui des armées, le général Vicente Nyakarundi, sont également désignés. D'autres changements sont opérés à la tête du renseignement militaire et de la sécurité intérieure, ainsi qu'au sein de la force rwandaise déployée pour contrer une insurrection djihadiste dans le nord du Mozambique. Le président et commandant en chef des forces armées, Paul Kagame, a également renvoyé des forces de défense rwandaises, le général Aloïse Muganga, le général de brigade Francis Mutiganda, ainsi que 14 officiers dont les noms n'ont pas été communiqués. Il a également autorisé le renvoi de 116 autres gradés et approuvé la résiliation des contrats de service de 112 autres gradés avec effet immédiat, ajoute le communiqué. Selon le porte-parole de l'armée Ronald Guivanga, les généraux Muganga et Mutiganda sont renvoyés pour indiscipline et quitte l'armée sans aucune allocation.
Félicien Kabuga, présenté comme le grand argentier du génocide rwandais et inapte à être jugé, a décidé aujourd'hui le mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux, une juridiction de l'ONU. L'homme d'affaires avait été arrêté en mai 2020 en région parisienne. Après 25 années de cavale, il a été transféré à La Haye, mais son procès, qui s'était ouvert en septembre 2022, n'a pu aller à son terme en raison de son âge et de son état. de santé. Et puis des représentants des camps rivaux en Libye ont annoncé à l'issue de pourparlers au Maroc être parvenus à une entente sur des dispositions juridiques encadrant les élections censées se tenir dans le pays divisé. Mais signe que des points de dissension persistent, aucune cérémonie de signature n'a eu lieu, contrairement à ce qui était prévu initialement. Et bien qu'Aguila Saleh, le président du Parlement, et Khaled El-Mekri, chef du Haut Conseil d'État, aient fait le déplacement à Bouznika pour y participer. Le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, a de son côté indiqué que le texte serait officiellement signé par M. Mekri et Saleh dans les prochains jours. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec Claire Morin-Jigou.
En Côte d'Ivoire, le Trésor public a lancé des cartes prépayées destinées au décaissement de bourses, de subventions, de fonds pour les voyages d'affaires et des dépenses des fonctionnaires. À noter, la carte Cash Junior est destinée à accélérer la procédure de paiement des bourses des étudiants et éviter les queues interminables devant les agences comptables des universités. La Banque mondiale a annoncé hier la révision à la baisse de ses prévisions de croissance pour l'Afrique subsaharienne pour 2023 à 3,2% contre 3,6% en janvier dernier. Ecofin précise que la baisse des prix des matières premières, l'accès limité aux emprunts extérieurs, l'inflation élevée et les politiques monétaires restrictives devraient peser sur la croissance dans la plupart des pays de la région. Les cours des céréales sont remontés ces derniers jours, reflet de l'inquiétude des marchés mondiaux face à un temps sec dans le nord de l'Europe et aux États-Unis en période de croissance des cultures. Face à ce qu'ils considèrent comme des risques climatiques, les marchés se sont orientés à la hausse, prenant aussi en compte l'augmentation du risque géopolitique avec l'intensification des combats en Ukraine.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Toutes les compétitions de football sont suspendues au Sénégal jusqu'à nouvel ordre.
Oui, c'est ce qu'a décidé la Fédération sénégalaise de football qui évoque la situation sécuritaire qui prévaut dans le pays depuis jeudi dernier et la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison pour corruption de la jeunesse. Les Lions de la Teranga seront en déplacement au Bénin dans le cadre des matchs de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Cette décision n'aura donc pas d'impact sur ce match de l'équipe nationale.
Justement, Gernot Rohr a publié la liste des joueurs béninois convoqués pour affronter le Sénégal le 17 juin prochain.
Le sélectionneur des Guépards a retenu 25 joueurs avec peu de surprises pour cet important rendez-vous. C'est dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2024. Nous retrouvons notre correspondant à Boyoukon, Élisée Nkpatine.
Le technicien franco-allemand a fait confiance aux habitués comme Stéphane Sesseillon, Khaled Adenon, Jodel Dossou, Satuné Alagbe ou encore Olivier Verdon. Par contre, David Kiki et Mervin Doremus ne sont pas de la partie pour raison de blessures, tout comme Ceci Dalmeida et Jordan Adeoti, choix personnel du sélectionneur. En revanche, on note le retour de Marcelin Koukpo et de Rodrigue Kossi. Pour le reste, 4 nouveaux ont été appelés pour la première fois. Brandon Agounon, Andrea Houtonji, Prince Ricardo Dossou et Alid Djangpata. On note aussi que l'ancien sélectionneur du Nigeria a toujours laissé de la place aux joueurs locaux, en témoignent les 5 qu'il a encore convoqués pour cette difficile explication contre le Sénégal. Serge Obasa, Rachid Moumini, Rabiou Sakamao, Hassan Imouran et Ricardo Dossou. L'objectif d'après Gernot Rohr est de prendre les 3 points face aux Lions de la Teranga avant la dernière journée qui se disputera au Mozambique. Boyoukon, Élisée Houmpati, VOA Afrique.
À présent, les transferts. Lionel Messi a pris sa décision. Il va rejoindre l'Inter de Miami, ici aux États-Unis.
C'est ce qu'indique l'agence d'information AP qui cite un reportage de BBC Sport publié ce mercredi. La star argentine, vainqueur de la Coupe du Monde en décembre, est libre après avoir fait ses adieux au Paris Saint-Germain. Jusqu'à ce mercredi, les choses n'étaient pas encore claires. La possibilité d'un transfert vers l'Arabie Saoudite étant fréquemment évoquée, les tentatives du Royaume pour attirer certaines stars les plus en vue du football se sont intensifiées lorsque le Fonds souverain du Royaume a pris une participation majoritaire dans 4 des principaux clubs du pays. Messi avait déjà établi une relation avec l'Arabie Saoudite en acceptant un contrat commercial avec ce pays pour y promouvoir le tourisme. L'Inter Miami, l'équipe de MLS, copropriété de David Beckham, est dirigée par un entraîneur intérimaire argentin, Javier Morales.
Page des sports VOA Afrique, signé Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui, c'est VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. L'ancien vice-président américain Mike Pence a lancé officiellement ce mercredi sa campagne pour la Maison-Blanche. Il brigue l'investiture républicaine aux primaires de 2024 et sera confronté à divers candidats, dont son ancien patron Donald Trump. L'ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, a aussi annoncé hier sa candidature. Il rejoint une arène déjà bien remplie d'aspirants de droite à la Maison-Blanche, comme le gouverneur de Floride, Ron DeSantis. Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint le professeur Jean-François Seznec, politologue, économiste et directeur du groupe Lafayette.
À mon avis, je pense qu'ils ont très peu de chance. L'idée pour eux, c'est de faire le plus grand dommage possible à Trump de façon à ce qu'un des candidats, des autres candidats, puisse savoir qu'il soit un peu plus populaire dans le Parti républicain, puisse obtenir plus de voix que Trump. Mais je pense que l'idée, c'est de détruire Trump un petit peu. Et je pense que c'est surtout Chris Christie. Ça va être son job, si on peut dire.
Quel est le candidat qui vous paraît le plus sérieux parmi tous les candidats déjà annoncés?
De mon point de vue à moi, je pense que c'est simplement le sénateur Scott de Caroline du Sud, qui est très conservateur, mais aussi c'est quelqu'un qui est de beaucoup plus centriste, qui pourrait être accepté par les républicains conservateurs, mais aussi par les républicains old fashion, hein, plutôt à l'ancienne. Il a des vues très, très conservatrices sur les budgets, etc. Et je pense que ça va lui donner beaucoup de support.
Quels sont les principaux enjeux et thèmes de campagne et comment cela peut-il influencer l'issue de la course?
Je pense que l'un des principaux sujets, c'est la façon de parler, la guerre des cultures, si vous voulez, entre les groupes. Je pense que les affaires sur l'homosexualité, sur l'avortement vont compter énormément parce que l'extrême droite du parti pousse ça énormément, bien sûr. Et bien sûr, le budget va peut-être prendre de plus en plus d'importance, le fait que le déficit budgétaire est si grave qu'il faut vraiment y faire très attention. Je pense que ça va être les sujets qui vont compter le plus.
Comment tous ces candidats abordent ces thématiques?
Alors, écoutez, chaque candidat, bien sûr, s'est vu des vues différentes. Hein. Par exemple, Pence, l'ancien vice-président, lui va essayer de dire que tout ce que veulent les conservateurs chrétiens, les évangélistes, ça, ils vont vraiment les groupes évangéliques. Je pense qu'il va toujours avoir ce support-là. Et ça va prendre beaucoup de votes à Trump, qui, lui, jusqu'ici, avait ce support, mais qui n'est pas vraiment apprécié, parce qu'il a quand même des problèmes moraux très importants. Donc, Pence va s'occuper de ça. Je pense que Scott prendra plutôt sur le déficit budgétaire, la façon de parler de DeSantis, qui est quand même, à l'heure actuelle, le principal candidat après Trump. Lui va insister sur les guerres entre les cultures sociales du pays.
Le professeur Jean-François Seznec joint à Annapolis dans l'État américain du Maryland.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Un immigré nigérian, Yemi Mobolade, est devenu le nouveau maire de Colorado Springs, la deuxième plus grande ville de l'État du Colorado, dans l'ouest du pays. Haruna Shehu nous parle de son investiture. Le récit, Gabi Dorsil.
Moi, Blessing Yemi Mobolade, je jure solennellement.
L'histoire s'est écrite dans le Colorado Springs lorsque l'immigré nigérian, Yemi Mobolade, a prêté serment. Le gouverneur du Colorado, Jared Polis, se dit inspiré par le parcours de Mobolade.
C'est quelqu'un qui a consacré sa vie à faire de Colorado Springs et de l'Amérique un endroit meilleur et dont l'histoire nous est familière.
Yemi Mobolade s'est installé dans le Colorado en 2010, a fondé une famille, ouvert deux restaurants et une église. Il a été élu dans cette ville traditionnellement conservatrice en tant que premier dirigeant noir de Colorado Springs.
Je me réveille tous les matins et je pense que c'est un rêve. Puis je réalise que non, c'est une réalité.
Omito Bray est une résidente de Colorado Springs.
C'est un homme de force, de foi, de caractère et de courage. Et nous avons beaucoup de chance de l'avoir à la tête de notre ville.
Monsieur Mobolade s'est engagé à être un leader pour l'ensemble de la population de plus en plus diversifiée de cette ville.
Je pense que c'est un jour important pour beaucoup de jeunes noirs parce que cela signifie que rien n'est impossible, qu'ils peuvent eux aussi entrer dans l'arène et diriger.
Alors que le maire Yemi Mobolade est entré en fonction immédiatement après son investiture, il va être confronté à des défis majeurs. Il devra travailler avec les membres du conseil municipal pour prendre des décisions importantes en termes de croissance, de sécurité publique, de logements abordables pour la police et d'investissement.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24 heures sur 24.
Pendant des décennies, les Juifs américains ont été les plus fervents partisans d'Israël, allant de la collecte de fonds pour l'État juif naissant à pousser pour un meilleur soutien du gouvernement américain à l'État hébreu. Mais le projet actuel du gouvernement israélien de réformer le système judiciaire a changé la donne et certains Juifs américains remettent en question leur soutien. Depuis Jérusalem, le reportage de Linda Grashtein, récit Claire Morin-Gibou.
Des dizaines de milliers de Juifs américains ont défilé dimanche sur la 5e avenue de New York lors du défilé annuel intitulé « Célébrons Israël ». Mais pour la première fois, un nombre important de manifestants faisait écho à l'opposition au plan de refonte judiciaire du gouvernement Netanyahou. Cette tentative de réforme a fait descendre des centaines de milliers de manifestants israéliens dans les rues au cours des 5 derniers mois. Le plan vise à réduire le pouvoir de la Cour suprême d'Israël et de nombreux dirigeants juifs américains disent qu'ils craignent que, s'il est adopté, Israël ne soit plus une démocratie libérale. Suzy Gelman est l'ancienne présidente du Israel Policy Forum.
De nombreux juifs américains comme moi, notre identité juive est très fermement ancrée dans notre relation avec Israël. Les gens sont extrêmement inquiets et se demandent s'il s'agit de l'Israël qu'ils ont connu, aimé, soutenu et pour lequel ils ont travaillé pendant des décennies et des décennies.
Les organisations juives américaines soutiennent depuis longtemps les gouvernements israéliens, y compris ceux dirigés pendant 15 ans au total par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Mais certains analystes disent que la coalition actuelle de Netanyahou, composée de partis d'extrême droite et ultra-orthodoxes, sape ce soutien. Matti Friedman est un auteur et un journaliste.
Beaucoup de gens sont très stressés. Ils se demandent comment ils peuvent défendre Israël, comment ils aimeraient le faire. Les gens qui ont toujours soutenu Israël, les gens qui ont donné de l'argent à des causes israéliennes, regardent maintenant ce gouvernement israélien qu'ils trouvent impossible de soutenir.
En plus des plans de refonte judiciaire, les lois proposées par les partis ultra-orthodoxes du gouvernement menacent de s'aliéner la majorité des Juifs américains qui s'identifient aux courants plus libéraux du judaïsme. De nouveau, Suzy Gelman.
If things don't change in Israel...
Si les choses ne changent pas en Israël et qu'Israël continue de devenir moins un État démocratique, encore moins un État juif pour tous les Juifs, réformés, conservateurs, non pratiquants, je pense qu'alors vous commencerez à voir des gens abandonner, baisser les bras et s'éloigner.
Pour certains experts, le mouvement de protestation généralisé en Israël contre les politiques gouvernementales d'extrême droite est une source d'inspiration pour les Juifs américains libéraux. Daniel Gordis est un chercheur pour le Shalem Institute.
Les Juifs américains regardent ces phénomènes en Israël, dont ils peuvent se sentir très proches, dont ils sont très enthousiastes et qu'ils veulent vraiment soutenir. Certes, ce n'est pas le gouvernement, mais c'est un échantillon très large des différents pans de la société israélienne.
Malgré les tensions avec ce gouvernement israélien, les dirigeants juifs américains espèrent que les relations entre les États-Unis et Israël resteront solides. Mais le président Biden n'a pas encore invité le Premier ministre Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche, rompant avec le protocole précédent.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum cette semaine. Gros plan sur la situation explosive au Sénégal, où des violences meurtrières ont éclaté récemment après la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko dans une affaire de mœurs. Le chef du parti PASTEF, détracteur farouche du chef de l'État Macky Sall, allègue être victime d'un complot politique pour l'empêcher d'être candidat à l'élection présidentielle de 2024. Quelles sont les causes et les conséquences de ces troubles sur fond de ras-le-bol des Sénégalais, dont de nombreux jeunes, face à la crise économique et sociale. Rendez-vous ce jeudi à 19h10.
Au Mali, la mosquée de Djenné, classée au patrimoine mondial de l'humanité, va une nouvelle fois être restaurée. Située à 547 km de Bamako, cette mosquée est considérée comme la plus grande bâtisse en terre au monde. En dépit d'un contexte sécuritaire difficile, les habitants de la ville de Djenné se mobilisent autour de leur mosquée emblématique pour lui offrir une cure de jouvence, le temps d'un crépissage. Reportage de Tidiani Ouedraogo.
Ce dimanche matin, les populations de Djenné et environ sont sorties massivement pour le crépissage de la grande mosquée de la ville. L'événement était très riche en couleurs. Des chants, des danses, mais aussi de la musique. Tout le monde était au rendez-vous. Nous, Touré et Manson de la ville, nous parlent de la construction de la mosquée. La mosquée de Djenné est construite en banco, pas d'autres matières. C'est l'architecture locale, une initiative des Manson de Djenné. Elle a été réalisée en une année de travaux. L'édifice construit à base de banco est aussi un symbole au Grand Sahel à cause de son éloquence, comme nous explique Moussa Diakité de la mission culturelle de Djenné.
Et la mosquée de Djenné, au même titre que les quatre sites archéologiques, sont classés dans le patrimoine culturel en 1988.
Ces dernières années, l'insécurité dans les centres du pays a eu un coup dur sur cette activité culturelle mais aussi touristique. Comme Aminata Nyanté, beaucoup se réjouissent de sa reprise.
Comme vous pouvez le constater, c'est une tradition dans la ville de Djenné. Nous ne les faisions plus à cause de l'insécurité. Mais cette année, nous avons constaté une amélioration, d'où l'organisation d'une grande fête dans ce sens.
Pour beaucoup de jeunes, la reprise du crépissage de la mosquée peut être une opportunité dans la consolidation de la paix. Moussaba est un jeune de Djenné.
Les gens sont dans la joie et le partage. C'est une occasion aussi pour même ceux qui sont dans d'autres localités du Mali de venir au rendez-vous. Et c'est un brassage culturel. Et à mon avis, c'est quelque chose qu'on doit perpétrer et au profit de la paix et de la cohésion sociale.
Des touristes venus pour la première fois sont visiblement satisfaits, mais aussi impressionnés par l'architecture de la mosquée et de la ville en général. Dramane Diallo y est pour sa première fois.
À Djenné, j'ai vu beaucoup d'actions culturelles. On a pas loin d'ici la tombe de Tapama Djenébo. On a notre mosquée, la grande mosquée qui est tout juste derrière nous. Donc on voit vraiment l'architecture de la ville de Djenné interpelle.
En 1907, la grande mosquée de Djenné est le plus grand bâtiment du monde construit en terre crue. Elle est aussi considérée comme étant la représentation suprême du style architectural au Sahel. Tidiane Ouedraogo, Djenné, VOA.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. À la mise en onde, Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.